que je vous propose, c'est qu'on commence quand même. On va, je pense qu'il y a un groupe qui est pas très complet, mais les autres sont à peu près complets. Alors là, on avait prévu une heure. On va peut-être essayer de faire un peu moins long. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Je parle trop fort. Je me tais. Ce que l'on vous propose, c'est de faire un petit peu moins long que prévu pour pas se mettre trop dans le rouge dans la journée. C'est qu'il y ait un rapporteur entre guillemets par groupe qui puisse dire un petit peu sur quels axes, sur quels points les échanges ont eu lieu ce matin là sur la dernière heure. Donc je ne sais pas si vous avez pris quelques notes éventuellement, si vous avez les grandes idées. Il y a quelqu'un qui se lance dans chaque groupe, enfin pour chaque groupe. On se laisse 10 minutes on va dire pour faire ça, pour pouvoir répondre aux questions. Et puis s'il y a quelqu'un du groupe qui veut compléter le rapporteur, il ne faudra pas hésiter. Alors je laisse le micro à qui?
Oui, alors on va commencer. Donc nous dans notre groupe en fait, c'était relativement riche parce que les origines étaient très diverses et les systèmes éducatifs également. Donc ça allait du Sénégal à la Slovaquie, Venezuela, Suisse, Grèce et puis aussi la France. Donc du coup on a beaucoup échangé à propos des instructions officielles, mais finalement c'était aussi intimement lié à la deuxième question sur la pertinence. Alors, donc, au niveau des modèles, en fait, le point de départ, peut-être, ça serait le point de vue vénézuélien, mais l'ancien modèle, puisque c'est celui qui est le plus rigide, du moins qui était le plus rigide, puisque c'était un apprentissage accumulatif et progressif qui augmentait en niveau de difficulté, avec des programmes très définis, c'est-à-dire tous les enseignants devaient faire à un moment précis une notion. Et ce modèle a été abandonné, l'année dernière. Où, voilà, en tous les cas récemment. Et du coup, il n'y a plus du tout de programme. Donc le programme est en construction et les enseignants sont laissés libres de leur choix pédagogique, avec quand même une incitation à utiliser les hypothèses. Alors je vais les reciter, mais les hypothèses 1 et 3, c'est-à-dire on apprend à partir de ce qu'on sait déjà et on apprend en communiquant avec les élèves. Mais en gros, c'est les seules consignes. Alors du coup, c'est apparemment un réel flou artistique, puisque chacun doit se débrouiller avec ça. Par rapport à ce modèle-là, hypothèse 1 et hypothèse 3, il y a également nos amis suisses, et peut-être un petit peu nous, les Français, qui procédons avec... si ce n'est des instructions vraiment explicites, en tous les cas une incitation dans les préambules des programmes qui est donnée. Et puis ensuite, j'avais noté, en ce qui concerne le Sénégal, la Slovaquie et puis la Grèce, en fait, c'est soit explicite dans le programme, soit c'est... ça fait partie du plan de formation des enseignants. On s'appuie beaucoup sur les hypothèses 1 et 2. Donc on apprend à partir de ce qu'on sait déjà et on s'approprie le savoir par petits éléments. Alors, sauf que cette hypothèse 2, en fait, quand on a commencé à débattre, elle nous a posé pas mal de questions. Parce que du coup, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait mettre dans cette hypothèse. Alors il y avait la notion de temporalité et notamment de décalage entre le temps d'apprentissage et le temps didactique. On a noté un vrai décalage et qu'il fallait absolument un retour. Et on a pas mal échangé nous à propos de la progression spiralée qu'on retrouve un petit peu en Slovaquie, qui pour ma part est maintenant donnée de manière institutionnelle au niveau des lycées professionnels également. Et puis après le débat, il est parti vraiment à partir d'une phrase en fait, qui était que ces trois hypothèses-là, a priori, avaient plus de sens en tant que formateur qu'en tant qu'enseignant. Et du coup, l'échange est vraiment parti à ce moment-là. Et on a vraiment commencé à discuter sur ces notions. Donc c'est vrai que on a été obligé de repréciser un petit peu la troisième hypothèse sur on apprend en communiquant avec les autres, sur la notion d'échange, sur la communication verticale, c'est les mots qu'on a employés à la fin, hein, verticale et horizontale, c'est-à-dire élève-enseignant et élève entre élèves. On était parti sur les hypothèses d'un apprentissage collaboratif entre élèves. Et puis, élève-enseignant, c'était le passage indispensable à la formulation. Pour que cet échange puisse avoir lieu, il faut que chacun puisse mettre des mots, et qui sont des mots identiques. Voilà, si j'ai oublié quelque chose. J'ai dressé un portrait rapide, hein, mais...
Le débat, il a vraiment...
Il y a vraiment eu un débat entre... dans l'apprentissage collaboratif, est-ce que c'est valable pour... Enfin, en tant qu'enseignant face à des élèves, ou est-ce que c'est plus valable en tant que formateur face à des enseignants? Et finalement, on n'était pas tout à fait d'accord, je crois. Enfin, ou en tout cas, voilà. Donc, ça résume un petit peu la situation. C'était quand même le point le plus disputé, quoi. Voilà.
On a peut-être manqué de temps aussi, parce que c'est restreint.
Bon, il paraît que c'est moi qui devais rapporter, mais ça va être très très difficile parce que chez nous c'était un peu décousu, on va dire. Voilà, on a à peu près fait que se poser des questions. On n'a pas répondu, pour être clair. Pour la première partie, c'est plus facile concernant les BO, qu'on appelle déjà pas tous les BO, donc on a déjà échangé là-dessus. Et puis, on s'est dit qu'apparaissait dans les BO de tous les pays, on était trois pays représentés, explicitement les 1 et les 3, en tout cas, au niveau des papiers. Par contre, le 2, il avait un statut un peu particulier, parce qu'il apparaissait pas clairement dans les BO. En revanche, de manière implicite, c'est ce qui se faisait le plus fréquemment. Voilà, notamment dans les découpages qui sont extrêmement précis, visiblement dans tous les pays. Voilà, et puis pour la deuxième question, alors là, on n'y a carrément pas du tout répondu. En fait, on a repris point par point les trois hypothèses, et puis chaque fois, on s'est posé plein de questions. On a trouvé que, en particulier, les sous-points qui étaient proposés n'étaient pas clairs, et puis plus on avançait et moins ça devenait clair. Je vous donne par exemple l'une des questions qu'on s'est posées, notamment sur la deuxième, l'exposition du savoir officiel. Déjà, on ne savait pas ce qu'on allait mettre derrière le savoir officiel. Est-ce que c'était le savoir savant? Est-ce que c'était le savoir enseigné? Est-ce que c'était le savoir appris? Donc on a longuement discuté là-dessus. Aussi, voilà, au niveau de le deuxième sous-point, la temporalité et chronologie. Temporalité, ça nous semblait adéquat, notamment entre le temps d'apprentissage et le temps didactique. Chronologie, là, on avait plus de peine, quoi. On avait de la peine à imaginer une différence de chronologie, par exemple, entre les élèves, si on parle du côté enseignant cette fois-ci. Par exemple, et pour la troisième puce, on a pas mal discuté aussi, ce qu'on voyait pas dans cette hypothèse de communication les uns avec les autres, ce que la formalisation venait faire à ce moment-là, on a commencé par barrer en disant que ça devait être formulation, puis ensuite, en lisant la parenthèse, on était un peu confus par rapport à ça. Mais c'est pas grave, on a bien discuté quand même, du coup. Et voilà, je vous donne là un aperçu des questions qu'on s'est posées, mais je sais pas si j'avais... Eric était censé m'aider. Thierry, est-ce que tu veux ?
Concernant les trois premiers points qu'on devait, sur lesquels on devait se prononcer, au départ, on a discuté un petit peu. On s'est dit que on était d'accord avec les trois propositions, mais on a ajouté deux autres. La première, c'est que. Je sais pas.
Mais il y a un autre micro, on peut aider. C'est vrai?
Bon, je me rappelle de la cinquième et pas de la quatrième. Bon, je commence par la cinquième. C'était l'idée qu'on devrait aussi ajouter que. On apprend en répétant des choses. Il y a un aspect répétitif aussi par lequel on pourrait apprendre. Ça, c'était la quatrième idée. C'était la cinquième. La quatrième.
Donc il y avait aussi l'idée pour apprendre qui avait été rajoutée sur effectivement l'aspect réflexif. L'idée d'introduire en fait des activités de métacognition aussi. Dans les apprentissages, de se regarder faire à un moment donné. Et on avait soulevé aussi l'idée qu'on apprend aussi en se confrontant au savoir. C'était ce qu'on avait évoqué, hein, certes. C'est-à-dire que dans la communication avec les autres, même si ça apparaît un petit peu, il nous semblait que c'était un point qui était peut-être à mettre au même niveau que les grands points. Ça fait référence en fait à l'idée en fait. Qu'on construit par petits éléments, mais qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui nécessitent en fait la construction de noyaux de connaissances qui vont servir d'éléments de validation aux constructions qui vont se réaliser au cours des activités. C'est un peu ce qui était dit. Et que, donc, dans l'apprentissage, il y avait l'idée de créer des liens, de faire des tissages entre les savoirs, justement, pour justement permettre d'apprendre. Ah, c'est bon, je me trompe pas trop là. On avait discuté aussi, pas mal sur. C'est la première partie. Là, ce qu'on identifiait en fait dans le premier point, c'était l'idée effectivement du constructivisme avec cette idée que les élèves effectivement n'arrivent pas sans rien comme une idée préconçue ou comme modèle en tête avant même tout apprentissage, qu'ils ont en tête des quasi-modèles. Qui vont leur permettre de raisonner, sur lesquels on ne peut, on pense, que prendre appui pour pouvoir construire justement autre chose. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte, en tout cas, pour pouvoir avancer, se confronter à la réalité et mettre en défaut certains points, ou en tout cas s'appuyer sur les erreurs pour pas les reproduire, en tout cas. Qu'est-ce qu'on avait dit ensuite ? Oui, je crois qu'on a quand même pas mal discuté autour de justement de la répétition. Et derrière ce terme-là, on n'y mettait pas tous la même chose. Il y avait cette idée de répéter plusieurs fois la même chose, et puis il y avait l'idée de réinvestissement. C'est-à-dire l'idée de, on peut apprendre, mais à condition de réinjecter finalement les connaissances ou les savoirs dans de nouvelles situations qui les mettaient à nouveau à l'épreuve, et pour qu'elles puissent effectivement devenir opérationnelles.
On a discuté aussi sur la pertinence des hypothèses par rapport à la pratique d'enseignement et de formateur. Je crois qu'on a été vite d'accord sur le fait que c'est pertinent en situation de formation. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Et dans la pratique d'enseigner aussi, mais c'est là où le problème s'est posé. Est-ce que les élèves ont toujours des choses à dire sur ce qu'on va leur enseigner? Ils peuvent avoir des connaissances personnelles sur certains sujet, mais sur certains d'autres, comme le modèle moléculaire, par exemple, ils peuvent pas ne pas avoir. On a discuté longtemps sur ça aussi.
Donc effectivement, concernant toujours le premier point, on apprend à partir de ce qu'on sait déjà. On a discuté un long moment là-dessus et sur le fait qu'il fallait peut-être prendre certaines précautions, puisque le fait que les élèves savent déjà, ont déjà des représentations face à un savoir qu'on veut leur apporter, il fallait modérer en fonction de l'âge. Alors on a longtemps débattu là-dessus. C'est-à-dire que si l'enfant est relativement jeune, il n'a pas forcément de représentation d'installer, et que si on arrive alors avec des savoirs, il peut les absorber sans être critique par rapport à ces savoirs, ou alors ne pas s'engager dans une activité de reconstruction pour essayer de les absorber et puis pour qu'ils soient compatibles avec ce qu'il sait déjà. Donc à modérer en fonction de l'âge du public, en fait. Donc il y a eu un débat là-dessus. Et on est arrivé à la conclusion que on apprend à partir de ce qu'on sait déjà, pour autant qu'on soit dans une zone proximale de développement. En fait, on en était arrivé là. Voilà. Et puis concernant la répétition, on a aussi parlé du fait qu'effectivement répéter, oui, mais il faut aussi qu'il y ait une transposition de fait, que la répétition se fasse dans un autre contexte avec des variables didactiques modifiées, ce genre de choses. Quoi.
Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce qui ont été dit? Alors, il y a des questions qui ont été posées. Hein. Peut-être qu'on va avoir une... Oui, Patrice, tu veux?
Non, simplement pour reprendre brièvement ce qui vient d'être dit. Il me semble qu'il y a, dans les choses qui pourraient être encore à discuter, il y a deux groupes qui ont discuté plus ou moins la validité de ces hypothèses au niveau enseignement ou au niveau formation. Il y a le dernier groupe et puis le second peut-être, ou le premier. Le premier, voilà. Donc là, ça, il y a encore quelque chose qui est probablement à débattre. Peut-être qu'on pourra reparler ce soir. Et après, il y a l'idée... Bon, apparemment, les hypothèses, bon, elles ont été un peu amendées, un peu conditionnelles à certains moments. Un groupe a proposé des hypothèses complémentaires. Donc ça reste en débat. Est-ce qu'avec ces trois hypothèses-là, un peu modifiées comme vous l'avez souhaité, avec la discussion que vous avez eue, sont suffisantes? Étant entendu que si c'est des hypothèses d'apprentissage, après, elles sont utiles pour concevoir des formations, des séances d'enseignement. Quoi. C'est un peu, il faut les entendre comme ça. Quoi. Si on garde ces trois hypothèses-là, est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour concevoir une séance d'enseignement, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des hypothèses complémentaires à faire? C'est la deuxième. Le troisième groupe a répondu oui, apparemment. Les deux autres groupes ne se sont pas penchés sur cette chose-là. Donc, la question reste ouverte, je pense. Bon, ensuite, il y a des problèmes de formule, quelques interrogations sur le rôle de la formalisation, sur le rôle de la réflexivité, des choses comme ça, mais bon, qui sont peut-être un peu moins... qui sont plus dans la discussion des hypothèses déjà faites, je dirais, que dans des choses un peu nouvelles pour un débat, quoi. C'est une analyse à chaud des propos. Hein.
Est-ce que vous voulez rajouter des choses, des questions, des réactions par rapport à ce que vous avez entendu?
On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est juste par rapport au fait qu'il y a deux hypothèses qui commencent avec on apprend et puis une hypothèse qui dit on s'approprie. Et donc, il me semble que là, il y a une volonté des personnes qui les ont écrites de faire une différence. Et j'ai entendu que le deuxième groupe avait dit en fait, parce qu'on s'approprie par petits éléments, alors il faut enseigner par petits éléments. Alors là, j'ai mal compris ce qu'a dit Laurence, mais c'est... Alors, il me semble que déjà, on peut remettre en cause cette idée de savoir par petits éléments. Il faudrait encore les définir. Est-ce que c'est vraiment toujours par petits éléments? Est-ce que c'est pas plutôt l'idée que c'est désordonné et que ça correspond pas nécessairement, effectivement, à la première, ce qui est dit dans la première puce? Mais que qu'entend-on par petits éléments? Et est-ce que si on s'approprie le savoir par petits éléments, ça veut dire qu'on doit décomposer ce qu'on enseigne par petits éléments? Et ça, je trouverais assez dangereux comme court-circuit. Voilà.
Oui, non, juste répondre très rapidement. Bien sûr que faire l'hypothèse qu'on apprend par petits éléments ne veut pas du tout dire qu'il faut enseigner par petits éléments. Mais c'est plutôt quand on enseigne, on se rend compte que les élèves ne s'approprient que des petits éléments de tout ce qui est enseigné. Et on ne peut pas supposer que parce qu'on enseigne, l'élève s'approprie la globalité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner une globalité, parce que le sens ne se construit que dans la globalité. Donc c'est pas du tout une conséquence directe sur le contenu de l'enseignement. Mais en même temps, ça oblige à reprendre pour qu'à un moment ou un autre, l'élève s'approprie plus que de petits éléments, mais les resitue dans le sens de ce qu'on veut qu'il acquiert.
Bon, je voudrais intervenir sur cette question-là. Je vois que les constructivistes sont gênés lorsqu'on leur dit qu'on peut découper les choses en petits morceaux, les éléments de savoir. Ça peut gêner, ça peut paraître gênant. À mon avis, je ne sais pas. Au moins, si je peux passer du niveau de l'enseignement au niveau de la formation. On pourrait très bien découper un acte, une manière de faire, en deux actes plus précis, plus circoncis, et les enseigner ou les former les gens à se les approprier. Ça me rappelle un petit peu un débat que j'ai eu avec des camarades, avec Shafiki et Marouf. Nous l'avions tout le temps. Lorsqu'on voulait ça, apprendre aux étudiants à enseigner comment ils vont se comporter en classe, et lorsque je leur disais qu'on pouvait très bien s'inspirer des travaux, par exemple, de Margaret Alté sur le micro-enseignement, ils me disent là, tu es behavioriste, tu es dans l'approche par objectif, tu décomposes les choses en deux petites choses. C'est pas accepté lorsqu'on est constructiviste. Personnellement, je trouve pas que c'est très différent. On pourrait très bien découper l'objet de formation ou l'objet d'enseignement, et tout en avoir cette une autre vision. Je peux l'avoir comme une globalité, comme un ensemble de petites choses. On pourrait pas, si je pourrais m'exprimer, on pourrait pas être sectaire, dire que soit je suis dans cette vision, donc j'élimine l'autre. On pourrait très bien mélanger les deux autres, les deux au plus d'une vision.
Bon, je crois qu'il faudra qu'on en reparle plus précisément. Je ne suis pas sûre qu'on puisse opposer, mais je voudrais réinsister sur le fait que dire que l'élève apprend par petits éléments ne veut pas dire qu'il faut enseigner par petits éléments. C'est complètement différent. C'est vraiment deux choses qu'il faut bien dissocier.
Juste pour finir dans le même sens, on a discuté pas mal aussi de... Il y avait un glissement dans les discussions plutôt entre les hypothèses, et on parlait des conséquences que ça a sur la pratique ou la façon d'enseigner. Et c'est assez difficile finalement parfois de dire je fais telle hypothèse sur comment les élèves apprennent. Qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence sur la façon dont je dois enseigner, ou j'ai telle pratique en tant qu'enseignant, et qu'est-ce qu'il y a sous-jacent comme hypothèse d'apprentissage qui justifierait cette pratique? Et en fait, je pense que le lien entre les deux est pas si direct, et que on voit bien, je regarde mon collègue, il disait amener les élèves à se poser des questions et n'importer le savoir que comme une réponse à des questions qui a pu être suscitées chez les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire derrière comme hypothèse sur la façon dont on apprend? Ben, c'était pas si simple. Expérimenté en mathématiques, moi j'ai pas su répondre en pointant une hypothèse d'apprentissage qui aurait justifié le fait qu'on recourt à une pratique expérimentale en mathématiques. Donc peut-être que c'est une des... Et on voit bien qu'apprendre par petits bouts, on n'apprend que par des petits éléments qu'on essaie de recomposer ensemble. Notre collègue en question a disparu, c'est pas grave. Veut pas dire forcément qu'on enseigne en petits bouts, en petites étapes déconnectées. Donc il y a une difficulté qu'on peut-être à garder comme ça, que travailler sur les hypothèses d'apprentissage, ça n'a pas une lisibilité directe en qu'est-ce que ça veut dire du côté de l'enseignement. Par contre, il faudrait qu'on arrive à avancer, à répondre au cours de ces 5 jours.
Autant je suis complètement d'accord sur le fait qu'au niveau des hypothèses d'apprentissage, les élèves n'apprennent pas en bloc tout ce qu'on leur enseigne d'un seul coup, mais c'est l'apprentissage par petits bouts qui ne me convient pas du tout comme vocabulaire et qui peut-être crée cette dérive justement sur le fait qu'on pense qu'apprendre par petits bouts, ça va être enseigné par petits bouts. Je pense que les apprentissages sont partiels, mais surtout parce qu'on sait bien aussi, quand même, il me semble que dans les hypothèses qu'on peut mettre, c'est qu'il y a quand même des sauts qualitatifs. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand même d'apprentissage qui sont forts et qui n'arrivent pas à point nommé au moment où on les attend le plus. On sait bien qu'il y a des moments de régression où des élèves qui ont... dont on a l'impression qu'ils ont acquis certaines choses à un moment donné, en fait, les ont pas acquis. Hein, même si localement, on a tous les éléments pour penser que. Donc c'est un peu plus compliqué que par petits bouts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de linéaire, il n'y a pas quelque chose d'immédiat dans l'apprentissage. En gros, quoi, l'expression par petits bouts ne me convient pas du tout. Je pense qu'on aurait à trouver autre chose.
Est-ce qu'il y a une autre réaction sur cette hypothèse qui, visiblement, pose pas mal de problèmes ? Ça, on pourra peut-être revenir ce soir dans la discussion de fin de journée, peut-être une autre proposition pour remplacer cette hypothèse. Donc un certain nombre de questions, je reviendrai sur ce que dit Sophie tout à l'heure. Il faudrait peut-être mettre des pistes sur comment rendre ces hypothèses après en classe, qu'est-ce qu'on en fait. Donc on essaiera au cours de la formation peut-être de vous faire des propositions dans cet objectif-là.
Oui, alors moi j'avais deux choses à dire. Bon, sur la question dont on apprend par petits bouts, ouais, je suis d'accord aussi que ça fait trop penser au behaviorisme, mais c'est pas du tout ça qu'on veut dire. Souvent aussi, ce qu'il y a, c'est que les élèves, ils apprennent pas forcément ce qu'on leur enseigne. C'est ça qui est peut-être compliqué pour le prof, c'est qu'il a l'impression qu'il y a absolument similarité entre ce qu'il a dit et ce que les élèves en ont retenu. Bon, donc ça c'était un premier point. Le deuxième, c'était la question de, en gros, enfin je sais pas, je vais peut-être être un peu caricaturale, mais en gros vous posiez, les deux groupes posaient la question sur est-ce qu'on peut, ouais, je suis peut-être un peu caricaturale, mais en gros, est-ce qu'on peut faire les mêmes hypothèses sur la formation et sur l'enseignement? Hein, c'était un peu ce qui était dit. Et ça, quand même, c'est assez... ça interroge. Mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, parce que très souvent, enfin, c'est mon expérience de formatrice qui me le fait dire, très souvent, les profs disent « Ah bah oui, ça, on peut le faire parce qu'on est ici en formation. Oui, d'accord, on peut... Ah, mais avec nos élèves, non, ça marchera jamais. » Donc, c'est vrai que quelque part... il y a une réticence. Alors bon, remettre en cause l'hypothèse, moi ça me paraît pas une bonne idée, mais par contre il faudrait s'interroger sur qu'est-ce qui fait dire ça souvent de façon voilà. Alors moi je fais une première proposition, c'est que peut-être que le savoir qu'on enseigne à l'école, il est peut-être beaucoup plus défini, écrit, cadré que ce qu'on fait en formation, et du coup il y a peut-être des choses qui vont varier à cause de ça, mais c'est une hypothèse d'explication.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Bon, je propose peut-être qu'on, éventuellement s'il y a des questions qui reviennent ce soir, il y aura un temps à la fin de la journée pour revenir là-dessus. Ça peut être aussi des discussions qui peuvent continuer tout à l'heure au sein de l'atelier. Ils seront pas spécifiquement prévus pour ça, mais peut-être que des discussions repartiront aussi là-dessus. Et puis, on va passer à la suite.